l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, en rediffusion à 18h. Aujourd'hui, c'est notre émission mensuelle proposée par le CIVAM du Finistère, le réseau des paysannes et des paysans et de la ruralité. Et on va rester un peu en prise avec l'actualité pour une fois. On va faire le point sur une tempête ravageuse. Ravageuse pour des arbres et des toitures, mais aussi beaucoup, énormément pour des exploitations agricoles, des hangars détruits, des serres déchiquetées et des assurances pas toujours adaptées. Alors, certains lancent des cagnottes pour se faire aider. Lucie, la maraîchère et la floricultrice de Rosnoën, a ainsi récolté plus de 12 000 euros en quelques jours sur son litchi. La cidrerie de Rosaverne, Telgruc, lance à son tour l'opération Parrainer un pommier pour l'aider à remplacer ses 400 pommiers perdus. La pépinière des Trois-Rivières du Fou se relève avec courage et grâce à l'aide de nombreux coups de main bénévoles. Il y a de la solidarité, mais encore beaucoup de difficultés. Avec nous pour en parler, il y a Alain Jacob qui est administrateur du CIVAM et Isor Solet qui est animatrice. Non, il n'est pas administrateur. C'est ça. Bon, allez, bénévole du CIVAM, on va dire ça. C'est ça. Bonjour à tous les deux, en tout cas.
Bonjour.
Alors, cette tempête, pour ce qui est de l'agriculture, qu'est-ce qu'on peut en dire? Enfin, comment est-ce qu'elle a frappé l'agriculture, cette tempête Kiaran? Est-ce qu'elle a été vraiment dure, comme je le dis, ou moins dure que 87, Alain?
En 87, j'étais pas agriculteur, j'étais salarié agricole. J'ai l'impression que 87 était plus fort, plus important, plus de dégâts matériels. Mais bon, c'est peut-être une simple image que j'ai, qui date. Et c'était surtout parce que c'était la première qu'on prenait vraiment, qu'on connaissait si forte. Et on est en train de s'habituer. Parce que depuis, il y a eu 99, il y a eu 2017, et sûrement que j'en oublie quelques-unes. Et sans doute encore d'autres à venir, puisqu'on est en train de rentrer dans un changement climatique que plus personne aujourd'hui ne dénonce, ou presque plus. Même si aujourd'hui 40% des Français sont encore un peu méfiants sur la... 38% exactement, sont méfiants sur l'idée qu'il y a un réchauffement climatique et derrière un dérèglement. Qu'est-ce que je peux dire moi sur la tempête? Alors moi je suis plus en activité, je suis en retraite depuis 2 ans, mais sur la ferme
nous,
où il y a des vaches et des cochons, on s'est retrouvé quand même sans courant pendant 9 jours. Alors on a retrouvé le plaisir de la traite à la main et surtout de...
Faut pas avoir trop de vaches pour faire ça.
On a beaucoup de vaches parce qu'on en a 15.
Ça va encore.
16, pardon. Et on a retrouvé aussi, beaucoup de solidarité aussi, parce que tout de suite, les voisins, les copains du monde sont venus pour la traite à la main, chacun sa vache. Et puis voilà, c'était un peu... On commençait à s'habituer quand le courant est revenu. On commençait à avoir moins de crampes dans les mains. Mais bon, on était quand même contents que le courant revienne, parce que le choc a été un peu dur pour les vaches, et donc moins de lait.
Oui, puis en matière de transformation, quand on n'a pas l'électricité, il y a des...
C'est surtout la qualité du lait qui ne permettait pas d'être transformé. Autrement, on peut transformer le lait à la main, ça, c'est pas trop un souci. Mais c'était surtout la qualité du lait qui faisait que c'est les cochons qui se sont régalés pendant une dizaine de jours.
Pourquoi la qualité du lait ça fait quoi?
Parce que les vaches étaient un peu sales, de saloperies qui tombent, et puis quand on n'est pas habitué. Et puis on n'a plus des vaches qui sont vraiment conformées pour la traite à la main, donc c'était pas vraiment facile. Quand les petits rayons de quelques centimètres, c'est pas des... Voilà, il faut revenir à la froment du Léon avec des beaux rayons là qu'on...
Ah, c'est de la technique pure, ça. Isor, quelles sont les remontées de cette tempête que le CIVAM a pu recueillir?
Des remontées chez les maraîchers, comme tout le monde l'a déjà pu l'entendre, c'est beaucoup de serres envolées, les pépinières, serres écrasées. On a eu des chutes d'arbres quand même, ça impacte quand même pas mal. Le manque d'électricité aussi pour tous les, comme vient de le dire Alain, pour les gens qui sont en élevage. C'est à peu près les grosses, après les vergers, les... aussi les apiculteurs aussi, mal de dégâts chez les apiculteurs.
C'est quoi, c'est des ruches renversées?
Des ruches renversées, et puis après je voudrais pas m'avancer, mais je crois qu'il y a d'autres choses sur l'élevage des abeilles, mais là je suis pas experte, donc je m'avancerai pas, mais ils ont remonté aussi des problématiques. On a eu aussi des choses sur les côtes avec les vents, pas mal de cultures grillées à cause du sel de mer. Donc du coup des arbres qui sont passés en deux jours à l'automne, enfin avec une couleur vraiment très jaune parce que les feuilles étaient grillées, et ça pareil sur des poireaux de plein champ, des choux, des choses comme ça.
Ah oui, c'est le vent qui apporte trop de sel en fait.
Trop de sel, et donc du coup les cultures ont grillé, ouais.
Alors, il y a évidemment, c'est trop tôt pour chiffrer les dégâts. Enfin, j'imagine, hein, en tout cas, à échelle du CIVAM, vous avez mis en place quelque chose quand même pour aider les adhérentes et adhérents ou...
Nous, on n'a pas. Enfin, la Confédération paysanne a mis en place très rapidement une carte collaborative pour essayer de recenser les dégâts sur le Finistère. Donc, du coup, nous, on a fait le relais de la Confédération paysanne là-dessus. Après, on a essayé d'appeler au maximum des adhérents, juste pour savoir aussi comment ça allait, de savoir si tout le monde était assez bien entouré. Je dirais qu'on a joué pas mal sur le côté humain, d'essayer de prendre des nouvelles. Nous, on a été aussi. Enfin, c'est un concours de circonstances, mais aussi, on a eu la chance de pouvoir rencontrer dans ces temps-là des psychologues de la MSA pour savoir un petit peu...
Mais ça, c'est la Mutualité Sociale Agricole, c'est la sécu des paysannes et des paysans.
Exactement, pour comprendre ce que c'était qu'une tempête et que c'était un vrai... Enfin, que c'était un traumatisme, en fait, aussi. Et donc, du coup, d'essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête de chacun, chacune. Ça nous a permis de savoir que c'était normal que tout le monde soit attristé, que ce soit difficile, mais que c'est dans là, début décembre, qu'il va falloir repérer un petit peu les personnes qui sont encore dans le mal. Et là, on est censé être en remontée de choc, en fait. Donc, voilà.
Il y a peut-être des personnes qui vont arrêter aussi de leur activité.
On a déjà eu des retours de personnes qui allaient arrêter leur activité, ouais.
Donc, la tempête, c'est bon, c'est un peu ça peut être que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais voilà, c'est ça. C'est...
Complètement, ouais.
Alain, pas de traumatisme à la ferme? En tout cas, de votre côté.
Bon, après, c'est à GAEC, donc il y a quand même beaucoup de personnes, donc ça permet déjà de se... On travaille en collectif, de se soutenir les uns des autres. Donc là-dessus, il n'y a pas eu trop de... Bon, c'est vrai, Isor l'a dit, ouais, beaucoup de bois de tomber, hein, beaucoup d'arbres à la fois. Quand ils sont tombés, encore, c'est presque moins grave, mais c'est les arbres qui sont déchiquetés, qui ont cassé en plein milieu, des gros arbres, là. Au niveau sécurité, tout ça, moi j'en ai vu un passer hier à côté de moi, là. Ça a été juste. C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas vraiment notre métier non plus. Mais ce qu'on peut dire aussi sur les arbres, et moi je reviens un petit peu sur ce problème de climat, c'est que si les arbres sont tombés, c'est aussi parce qu'il y avait encore beaucoup de feuilles. L'automne n'avait pas fait son boulot encore, et les feuilles étaient toujours là, donc il y a une grosse prise au vent. Donc, c'est vrai que sur nos fermes où on garde beaucoup d'arbres, eh ben, sur les petits talus avec des gros arbres, ben, avec beaucoup de feuillage, ben, ça s'est tombé, quoi.
Et malgré tout, ça peut peut-être montrer cette tempête qu'avoir des talus avec des arbres, ça protège aussi, non? Pour certaines cultures, j'imagine, non?
Ça protège. Nous, on a beaucoup d'herbes, donc on n'a pas de culture. Là-dessus, on n'est pas trop embêtés. Mais d'abord, ça protège. C'est sûr, ça protège. Bon, sur l'année, ça protège. Et puis, c'est, nous aussi, depuis longtemps, on le dit, c'est une source d'énergie, le talus. C'est aussi
Là, il y aura du bois, là, pour le coup.
À une époque où il faut consommer du carbone qui rentre trop dans l'atmosphère, ben, avoir des herbes sur les talus, c'est aussi une valeur. Il ne faut pas demander aux pays pauvres d'arrêter de couper leurs arbres. Et puis, alors que nous, on les coupe partout, quoi. Ça, c'est des choses qu'il faut un peu remettre en place.
Ce bois, il ne sera pas perdu, le bois qui résulte de cette tempête. Là, pour le coup, c'est plutôt...
Je pense que pour certains, ça va être coupé, poussé dans des coins de talus, mais je pense que beaucoup de monde, les tronçonneuses ont démarré tôt cette année, donc ça coupe. Vers du stock pour quelques années.
Et alors, on a découvert à l'occasion de cette tempête Kiaran, enfin quand on n'est pas dans le milieu agricole en tout cas, que le système d'indemnisation d'assurance, c'est vraiment complexe. Enfin, est-ce que vous pouvez nous éclairer pourquoi est-ce que les serres ne peuvent pas être assurées, enfin les petites serres ne peuvent pas être assurées par des contrats d'assurance ou Isor ?
Alors, je suis pas experte en assurance, donc du coup, je vais un peu m'appuyer sur les retours qu'on a eus. Il y a certaines assurances qui n'assurent pas les serres, d'autres qui les assurent. On a même des cas là dans les mêmes assurances, dans les mêmes, les mêmes assurances qui n'assurent pas la même chose. Enfin bon, voilà. Donc ça dépend des contrats. Ce qu'on a vu pas mal, c'est que souvent les serres maraîchères sont assurées sur les 5 premières années. Donc du coup, après, il y a l'obsolescence qui s'ajoute, qui fait que les il n'y a plus d'assurance, il n'y a que certaines marques de serres qui sont assurées.
Oui, Alain,
les serres en plastique, oui, parle majoritairement des serres en plastique. Effectivement, là, on parle des productions et des types de fermes sur lesquelles on est proche. C'est complètement différent sur des serres en verre. Les serres Saveol, on ne sent pas du tout la même chose.
Elles sont assurées.
Alors, il y a des assurances et il y a surtout une grosse équipe derrière et il y a une filière derrière. Le lendemain de la tempête, il y avait déjà 80 salariés des Pays-Bas qui étaient descendus dans le Finistère pour aider à la reconstruction des serres, des serres en verre.
Oui, un service.
Il y a un service après-vente, il y a une filière qui est beaucoup plus grosse et donc du coup qui a beaucoup plus de moyens. Donc là vraiment on part sur les serres, j'ai découvert ça, ce qu'on appelle les serres froides du coup.
Oui, c'est celles qui ne sont pas chauffées en fait.
Voilà. Ouais. Et donc du coup ces serres-là sont pour certaines assurées, pour d'autres pas assurées, ça dépend des contrats. Donc on a des paysans qui ont eu leurs serres assurées. Après là ce qui va jouer encore c'est qu'on a des retours où les experts ne sont toujours pas passés, on ne peut pas toucher en fait les dégâts tant que les experts ne sont pas passés. Et là, il commence à y avoir des allongements en fait dans les commandes de serres. Le prix de la serre aussi, il faut avancer la trésorerie. C'est des métiers souvent en tension financière, donc du coup, il n'y a pas forcément, surtout quand on vient de s'installer, de trésorerie pour racheter les serres. Et ce qui va pêcher, en fait, ça va être surtout pour certaines personnes les légumes primeurs qui vont pas arriver au printemps prochain. Et c'est là où on va avoir les conséquences aussi.
Et il y a des pertes de production, sinon,
Oui.
En dehors de ce qui n'est pas semé, qu'est-ce qu'il y a comme perte
Là, on devait aller avec une équipe remettre une bâche cet après-midi chez un maraîcher à Dirinon, Hugo. Et il s'est remis à la semaine prochaine, mais bon, toute sa mâche, toute la mâche qu'il avait pour cet hiver, elle est partie. Les patates d'eau, ça commence à pourrir. Enfin bon, voilà, il y aura de la perte. C'est sûr, il y aura de la perte. Hein, ça,
surtout en maraîchage
En élevage,
pendant la coupure de courant, il y a eu de la perte.
Enfin, après, ça va se tasser. Sauf ceux qui ont eu des dégâts, peut-être sur les animaux. Je crois qu'on en a quelques-uns aussi, Vam, qui ont eu des bêtes mortes pendant la tempête. Quoi. Mais autrement, ça suit son cours.
Il y a des baisses de lactation, il y a des vaches qui ont été taries plus tôt, donc du coup ce qui entraîne par exemple s'il y a un salarié pour la transfo, une mise au chômage, voilà, c'est des choses qui sont comme ça mais qui vont pas être répercutées, j'ai l'impression, dans le temps long, après.
Bien sûr. Évidemment, tout ce qui est végétal, le temps est plus long, justement. On n'a pas parlé des céréales. Enfin, je ne sais pas si vous êtes très concerné aussi, Vam, par la production de céréales. Enfin, c'était quoi le problème? C'était les maïs couchés.
On a vu la semaine dernière, avec le beau temps. Là, les gens, ils ont. Ah, vous parlez du maïs?
Je parle des céréales en général, en fait.
Autrement, les céréales, les semis d'hiver, ils ont été faits la semaine dernière pour beaucoup. Après, il y a eu du maïs. Je crois qu'il y a encore du maïs qui est dans les champs. Hein. Justement, un exemple, à côté de chez moi, il y avait un champ de maïs encore bien entouré avec des arbres, des talus. Il est resté debout.
C'est
un exemple.
Très bien.
quand l'arbre soutient le maïs.
Ouais. Et c'est sûr qu'on a eu pas mal de retours, notamment. J'étais assez étonnée d'endroits où je pensais qu'ils seraient très touchés, en fait, pas du tout. On a eu pas mal de retours de fermes quand j'ai fait le tour qui m'ont dit le bocage a fait son travail.
Ah oui,
et c'est
ça.
Vrai que les arbres sont tombés dans le bocage, mais n'empêche que ça a quand même fait une protection. Et il y a certains maraîchers qui n'ont pas eu de dégâts grâce au bocage, notamment.
Oui, ça mérite d'être souligné. Alors, on parlait aussi des pour les indemnités, on a aussi parlé de la calamité agricole. Moi, j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne, ce régime de calamité agricole. Est-ce qu'on peut avoir quelques lumières, Isor ?
Alors, moi aussi, j'ai du mal à comprendre. Je sais qu'il y a une calamité agricole qui a été déclarée, là, il y a 2 jours. mais j'ai pas encore compris les tenants et les aboutissants de ce qui allait passer en calamité agricole. Tout ne passe pas. Donc du coup, là, ça va être. J'ai cru voir dans la presse que c'était sur notamment les vergers seraient pris en compte, mais c'est vraiment des choses à vérifier. En tout cas, c'est pas sur tout, c'est pas pour tout le monde. Ça dépend aussi du lien avec les assurances, etc. Donc du coup, c'est assez du cas par cas presque. Et donc du coup, on a un peu du mal au jour d'aujourd'hui, nous, à donner une information aussi claire, parce que c'est pas notre boulot de base là-dessus.
Alain, une chose à ajouter sur les calamités agricoles ? Est-ce que la ferme est concernée à Saint-Cadou ?
La calamité agricole. Bon, moi, ce que j'avais retenu, c'était que le président Macron avait dit que c'était pas une catastrophe naturelle, et il a bien raison. C'est pas une catastrophe naturelle, puisque si on considère que nos dépenses d'énergie qui sont captées par en grande partie par les océans, réchauffent les océans, réchauffent la surface de l'eau et donc accélèrent le vent. Donc ces tempêtes, avec moins de carbone dans l'atmosphère, auraient peut-être été moins violentes. On sait quand même maintenant, avec tous les travaux du GIEC, que c'est depuis les quantités de carbone dans l'atmosphère ont décollé à partir des années 50, après guerre 39-45. Alors, à partir des années 50, ça va être décollé sur une pente exponentielle qui n'arrête pas de grossir. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de je reviens à cette histoire d'océan qui se réchauffe, une surface des océans qui se réchauffe de 2,89 degrés, je crois, en moyenne.
Ah, c'est précis. Et chaque année aussi...
Tout le monde peut lire ça dans un livre qui s'appelle Le GIEC, Urgence Climat, et qui est écrit par Sylvestre Huette. C'est très intéressant. On en aurait pour plusieurs émissions,
oui.
Mais pour parler de ça. Mais donc, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Donc, ces catastrophes-là, on va encore en avoir, comme on a eu une sécheresse l'année d'avant, comme on a eu un mois de juin très sec avec une sécheresse de surface.
Comment l'agriculture, enfin surtout la petite agriculture peut s'adapter à ça. Est-ce qu'on arrête les serres? Enfin, comment est-ce qu'on fait pour, si on avait une tempête qui arrive par an, enfin ça serait pas gérable.
Oui, ça commencerait à poser problème, c'est sûr. Ben, peut-être comme dit Isor tout à l'heure, c'est vrai que on remet du bocage, on protège ces serres peut-être autrement. Je pense qu'on trouvera des solutions à ce niveau-là. Mais bon, s'il y a une tempête Kéran tous les ans, c'est qu'il y aura aussi d'autres sécheresses, il y aura des incendies, c'est qu'on est très mal barré. Peut-être la petite agriculture aura moins de soucis. D'ailleurs, on voit bien, depuis le Covid, depuis la guerre en Ukraine, c'est pas les produits des petites fermes ou des fermes en bio qui ont augmenté le plus. Nous, on a fait le calcul sur la ferme, on a eu une augmentation de 3-4% sur nos prix depuis 2020, de nos prix de vente.
D'accord.
Quand on voit les prix, par exemple, des produits laitiers, c'est plus de 20%. Quoi.
Ouais, donc,
on est en agriculture beaucoup moins énergivore, et donc, quelque part, les répercussions sur nos prix, elles étaient beaucoup moins importantes sur un produit bio, sur un produit fermier, sur un produit... Donc je pense que la petite agriculture, si on doit l'appeler comme ça, elle aura peut-être plus de facilité à rebondir face à un dérèglement climatique qui serait violent.
Ouais. Ou à résister aussi, ouais. Et oui.
Y a aussi une résilience aussi sur ces fermes-là. En tout cas, nous, j'ai l'expérience de ces fermes-là. Là, on voit des maraîchers qui reconstruisent différemment aussi leurs parcelles. Donc les serres qui ont été mises à terre, ils vont pas les remettre aux mêmes endroits parce que c'est certaines serres qui ont pris et pas toutes. Et donc, du coup, elles sont peut-être dans les vents dominants ou dans des endroits où le bocage n'a pas encore eu le temps de pousser quand le bocage a été replanté. Et donc, du coup, c'est aussi ces capacités-là. On est en train de préparer un cycle de formation, on espère pour l'année prochaine, sur lire le vent, sur la lecture de la météo aussi, et pour pouvoir s'adapter en fait et essayer de comprendre si c'est possible ces phénomènes-là, et en tout cas y faire face, quoi.
Ouais, il y a le vent, il y aura l'eau aussi, gérer la rareté en eau quand il y aura une rareté, ou le trop-plein, parce que ça peut être un problème aussi quand il pleut vraiment trop. Enfin, là, il a beaucoup plu, mais pas autant que dans le nord. Enfin, je sais pas, c'est pas encore un problème pour l'instant, la quantité de pluie.
C'est pas un problème, mais c'est ça. Enfin, là, on fait j'en profite le 13 décembre à Mahalon, on fait une conférence sur ces questions d'hydrologie aussi et sur en fait comment on réfléchit et on aménage sa ferme pour faire face, où est-ce qu'on plante un arbre pour qu'il soit le mieux placé en termes hydriques, comment faire pour gérer les fonds de champs qui vont prendre plus d'eau que d'autres pendant les grosses pluies, etc. Et comment on les transforme en fait en aménité positive, j'ai envie de dire, sur la ferme plutôt que négative.
Il y a un savoir qui a progressé là-dessus sur...
Il y a un savoir, on travaille avec un cabinet qui s'appelle Permalab, qui est dans le sud de la France, qui eux réfléchissent plus à la question de la sécheresse, mais donc du coup on est en train d'essayer d'adapter et de comprendre leur fonctionnement pour l'adapter à nous, le fait qu'on ait beaucoup de pluie en automne notamment et qu'on ait peu de nappes phréatiques.
Oui, il faut évidemment, il y a aussi peut-être de nouvelles cultures qui seront expérimentées pour faire face à, je sais pas, pour résister au vent, je sais pas quelle culture résiste mieux au vent que d'autres, mais
l'herbe,
c'est ça. En plus, des vaches bien solides sur leurs pattes, ben voilà. C'est ça qui ne s'envole pas.
Est-ce que les poules s'envolent ? Poser la question vraiment, est-ce qu'il faut vraiment passer à un régime vegan ou végétarien ? Les animaux, ils ont toute leur place dans les campagnes, en étant un compagnon des gens de la campagne, un compagnon des paysans.
On n'a pas parlé de l'élevage plein air. Enfin, je pensais aux poules qui sont très légères et qui s'envolent peut-être. Enfin, ça, il n'y a pas eu de. Vous n'avez pas eu d'écho là-dessus sur cette question.
On a eu l'écho d'un poulailler. Si, il y a eu une perte sur la côte de Douarnenez, 40 poules. Après, je n'ai pas les détails de savoir si c'est le poulailler qui s'est écrasé sur les poules ou les poules qui se sont envolées. Mais en tout cas, il y a eu quand même des.
Oui, il y a quand même des dégâts.
J'ai eu l'écho à Anvec, ici, là, entre Anvec et Saint-Riwal, où les chapons se sont envolés. Ici.
Oui, exact. J'ai eu cet écho aussi.
Disparu, les chapons. Qu'est-ce qu'on va manger à Noël ?
C'est ça, la question est là. Sur les aides, quand même, le système de financement de l'agriculture, qu'est-ce que vous avez à dire ? Parce que là-dessus, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'aides, en tout cas pérennes, proposées pour la petite agriculture, qu'elle soit bio ou pas bio, d'ailleurs.
Ben c'est sûr qu'il y a une certaine orientation. On était en réunion calamité agricole juste après la tempête. Et c'est vrai qu'on voit bien, par exemple, les assurances qui nous disaient qu'elles veillaient bien à prendre les gros dossiers en premier. Sauf que, comme on l'a rappelé, un gros dossier pour certains, c'est un petit dossier pour eux, quoi. Enfin, donc, par exemple, des demandes d'assurance à 25 000 euros, ils ne priorisaient pas. Alors que pour certains agriculteurs, agricultrices, c'est quasiment, ça représentait une perte de 80%. De leur ferme.
Ouais, c'est une question de survie.
Donc c'est une question de voilà.
C'est pas leur critère. La survie de l'exploitation n'est pas un critère pour les assurances.
Là c'est une question de chiffres. On a eu vraiment cette lecture là que c'était une question de chiffres qui primait quoi et de grandeur et de voilà. Après sur les aides, on a vraiment du mal à avoir encore une lecture claire. On sait que le vice-président de région chargé de l'agriculture a annoncé des aides, notamment pour les maraîchers. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas comment, qui, pourquoi. Il y a aussi le fait que on ne sait pas clairement comment ça va être redistribué et mis en place. Il y a le fait de la... Des fois, c'est des aides qui peuvent être dures à mettre en place, avec beaucoup d'administratifs, qui demandent beaucoup de paperasse, qui demandent des cachets de cabinet comptable, qui demandent pas mal de choses, et que certains n'ont pas ou n'ont pas la capacité, en un temps très limité, de fournir, parce qu'il y a un autre boulot à faire, qui est de reconstruire la ferme et de remettre... Et donc, du coup, ça, on ne sait pas du coup, qui va en bénéficier et comment ça va se passer.
Il n'y a pas des possibilités de mutualiser, justement, toute cette paperasserie à plusieurs fermes, non ? C'est difficile, Alain ?
Non, parce que c'est cas par cas. Ouais, donc, c'est vrai que les structures, quand tu es seul sur ta ferme et que tu as déjà beaucoup de boulot et que tu as des papiers à remplir, soit tu délègues au comptable, mais c'est encore ça à coût, soit tu laisses tomber gratuit, et puis tu croches dedans. Mais c'est vrai que moi, je vois sur notre ferme, et j'imagine que c'est dans toutes ces fermes où il y a beaucoup de monde, et ben, où il y a du monde, il y a de personnes, il y a une personne qui est déléguée au papier. Et c'est vrai que ça fait la différence souvent. C'est incroyable, mais 25% du boulot sur une ferme aujourd'hui, c'est de l'administratif.
Mais justement, on a parlé de coups de main bénévoles, de solidaires et tout. Est-ce que ça, c'est faisable ? Est-ce que c'est envisageable d'avoir des gens, des bénévoles, des gens qui veulent aider les fermes et qui n'ont pas de compétences purement agricole, mais qui pourrait avoir ces compétences-là. Est-ce que c'est envisageable ou pas?
Compétences au niveau de tout ce qui est administratif.
Ouais. Mmh.
C'est pas évident. Ouais. Puis c'est lancinant, c'est long. Quand on prend son téléphone et qu'on vous met sous écoute, attendez, il y en a une personne va vous répondre. Attendez, une personne va vous répondre. Moi, je deviens fou quand j'entends Pascal qui est là au bureau, puis il y a un truc qui tourne depuis un quart d'heure.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Bon, je trouve que là, ça a été assez réactif au niveau de Groupama, enfin directement les caisses locales. L'avantage de ce circuit-là, je veux pas.
Est-ce que c'est un assureur qui est un peu spécialisé ou pas? Parce qu'en
Oui, c'est un truc qui s'est monté en fin de compte avec, en même temps que la MSA, que les crédits agricoles, les crédits mutuels, tout ça, c'est la même boutique. Hein, c'est l'office central de Landerno derrière. Et y a quand même ça, c'est qu'on connaît la personne qui gère le bureau sur la commune ou sur la communauté de communes. Donc ça, c'est des trucs, c'est vrai que ça, c'est le bon point de ces réseaux-là, je pense. Après, c'est chacun ses contrats, c'est chacun. Tout dépend. Hein,
Est-ce qu'un épisode comme la tempête Ciaran peut servir à harmoniser, enfin, je sais pas, à améliorer le système? Non. Vu vos mines.
On peut se poser la question, la question, ouais. Comment les assureurs vont réagir par rapport à tous ces accidents climatiques. Est-ce que ça va augmenter les tarifs des assurances? Qu'est-ce que tout le monde va pouvoir y faire face? C'est aussi dans ce sens-là qu'il va falloir voir les choses aussi.
Bien. Qui vivra, verra. On fera d'autres émissions quand on en saura davantage. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, le réseau CIVAM revient très bientôt dans l'EM, puisque ce sera le 14 décembre, si je ne m'abuse. Merci. Au revoir.